Bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par le pasteur Redouane Esbanti. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bienvenue en ce deuxième dimanche de carême. Le carême est un chemin. Un chemin parfois escarpé, parfois obscur, mais un chemin où Dieu nous précède. Nous ne marchons pas seuls. Car Dieu dépose sur nos routes des éclats de lumière, des moments de grâce, des monts Tabor qui nous aident à tenir dans la nuit. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Seigneur, avec toi, nous irons au désert, main dans la main, guidés par ta lumière.
Seigneur, avec toi nous irons au désert
pour renaître en toi dans tant d'amour sincère. Dans le silence et l'ombre du matin, nous marchons avec toi, Jésus divin. Face aux tentations qui cherchent à nous vaincre, tu es notre force, notre bouclier sans crainte. Nous laissons nos fardeaux sur le chemin pour accueillir ta paix dans nos mains. Au désert de nos cœurs, tu viens habiter pour purifier nos vies et nos pensées. Même quand la fatigue alourdit nos pas, ton souffle vivifiant nous guide ici-bas. À la prière, dans le jeûne et la foi, tu nous montres le chemin, tu es notre choix. Nous marchons ensemble, peuple de lumière, avec toi, Seigneur, rien ne peut nous faire taire. Le désert devient lieu de grâce et d'espérance, car tu transformes nos cœurs avec patience. Alors chantons ton nom élevé sur nos lèvres, tu es notre guide.
Seigneur, nous irons toujours
au désert, dans la vie portée par ton amour.
Seigneur, avec toi, nous irons au
naître en toi, dans ton amour sincère.
Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour les jours clairs de nos vies, pour les instants d'évidence, pour les rencontres qui nous ont relevés, pour ces heures où ton amour nous a semblé plus réel que tout. Merci pour les lumières posées sur notre route, pour les visages aimés, pour les paroles qui ont changé notre destin, pour les appels que nous n'avons pas oubliés. Tu es le Dieu qui se révèle, le Dieu qui transfigure, le Dieu qui éclaire sans éblouir, le Dieu qui accompagne sans contraindre. Que la gloire de Dieu soit sur notre monde aujourd'hui et pour toujours. Amen. C'est ce temps que nous appelons dans notre liturgie protestante la louange, et cette louange est suivie aussi de ce que nous appelons la prière de repentance, à laquelle je vous invite maintenant. Seigneur, nous confessons que nous oublions vite tes lumières. Nous retenons davantage nos peurs que tes promesses. Nous laissons la brume recouvrir les souvenirs de ta fidélité. Nous cherchons parfois des certitudes faciles, des sécurités magiques, au lieu de la confiance simple. Nous voudrions rester sur la montagne et nous refusons de redescendre dans la plaine. Pardonne notre manque de foi, notre fatigue d'espérer, nos découragements et ravive en nous la mémoire de tes passages. Écoutons la bonne nouvelle. Dieu ne nous a pas abandonnés dans la nuit. En Jésus-Christ, il nous rejoint sur la montagne comme dans la vallée. La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. En Jésus le Christ, nous sommes aimés et relevés. Alors, nous pouvons marcher dans sa paix. Amen. Avant d'ouvrir le texte biblique que nous allons partager pour la méditation de ce deuxième dimanche de carême, je vous invite à la prière d'illumination. La prière d'illumination, c'est cette prière que nous demandons afin que notre regard, notre cœur, s'ouvre à cette vérité qui traverse le temps, les âges, les histoires, les civilisations et qui arrive jusqu'à nous et que nous puissions l'entendre comme une route, un chemin vers le royaume. Seigneur, ouvre nos yeux comme ceux des disciples sur la montagne. Donne-nous d'entendre ta voix. Que ta parole éclaire notre route aujourd'hui. Amen. Et donc, le texte biblique auquel je voudrais vous inviter à être à l'écoute, c'est le texte qui nous est proposé pour ce deuxième dimanche de carême. Et ce texte se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, et je lirai les versets 28 à 36. Environ 8 jours après avoir annoncé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. Apparus dans la gloire, ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent là, gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu.
Resurrectione tua, Cristo, in resurrezione tua.
dans ce texte qu'on appelle la transfiguration du Christ, on peut voir dans cette transfiguration du Christ la densité de nos propres transfigurations, la vôtre, la mienne. Et oui, nous aussi, chacun de nous d'ailleurs, si nous y regardons bien, nous avons dans notre vie des petits monts Tabor, ou bien des grands. C'est-à-dire des moments si clairs et si forts que rien n'en efface la trace, pas même le doute et l'épreuve après coup. Réfléchissez. Le sentiment fugitif de l'évidence de l'amour ou celui de l'évidence de Dieu ne sont sans doute pas étrangers à votre histoire. Un peu comme le navire qui, se battant contre une mer agitée, distingue soudain, au sommet d'une vague plus forte que les autres, le temps d'un éclair, la jetée du port qu'il faut rejoindre, ou l'éclat lumineux d'un phare qui commande le passage. C'est une vision si fugitive et si brève qu'une fois l'élan retombé, on écarquille les yeux en se demandant si on n'a pas rêvé. Mais vision fulgurante qui nourrit en fait l'espoir et le combat dans la nuit. La transfiguration avant la passion, c'est cet extraordinaire moment de lumière donné pour vivre la nuit ordinaire. En préparant avec des jeunes leur mariage, j'ai toujours été frappé de la trace qu'ils portaient quelque part en eux d'un événement fondateur, d'un moment privilégié, d'un éblouissement qui les aidait à tenir bon. Et plus encore, en préparant des anniversaires de mariage, vous savez, au bout de 30 ans, 40 ans, les noces d'or, j'ai été souvent impressionné par la mémoire toujours présente de ces grands moments de la vie de couple où il s'est passé quelque chose. Je revois encore mes grands-parents quand ils parcouraient ainsi les grands moments de leur vie commune. « Tu te souviens ?» disait autrefois mon grand-père. Et ma grand-mère répondait simplement « oui ». Et leur communion de regard et de silence en disait long. Dans la vie professionnelle également, beaucoup pourraient témoigner de ces intuitions très fortes où l'on sent que l'on est dans la bonne direction, à sa vraie place. Je pense par exemple à un ami qui, au lieu de choisir une carrière tranquille, a quitté sa confortable situation de salarié et a choisi d'essayer de sauver l'entreprise familiale dont dépendaient plus de 100 familles. Je pense à ce cadre aux responsables qui acceptent de partir sur le terrain pour trouver les emplois qui compenseront la fermeture d'une usine. Ou aux neveux qui préfèrent partir au Mexique avec la délégation catholique à la coopération plutôt que d'aller à New York pour un poste financier juteux. Malgré toutes les difficultés rencontrées, il y a une certitude du cœur qui les habite, qui s'enracine dans quelques moments de lumière. Vie de couple, de famille, responsabilité professionnelle, l'éblouissement du Christ en gloire nous traverse tout entier jusque dans nos relations à Dieu lui-même. Dans un livre, qu'il faut absolument lire, Jean-François Six raconte comment Dieu est capable de retourner une vie en un instant. C'est un peu comme ces panneaux lorsque on se déplace de Montpellier à Sète. Vous savez, il y a 100 mètres retournement possible. Ce livre de Jean-François Six s'intitule « Dieu cette année-là ». Et cette année-là, pour lui, c'est 1886. Et 1886, c'est l'année des martyrs de l'Ouganda, de la conversion de Charles Foucault, de Paul Claudel. Quand ces témoins racontent, ils situent l'origine de leur aventure spirituelle et sont souvent capables de dire tel lieu, telle rencontre, telle date précise. Et c'est ce que raconte aussi Éric-Emmanuel Schmitt. Pour le jeune Charles de Foucault, par exemple, ce fut la rencontre avec l'abbé Huvelin dans son confessionnal en octobre 1886 dans l'église Saint-Augustin à Paris. Il voulait disserter à la manière d'un mondain qu'il était sur les troubles de sa vie fortunée. Et l'abbé Huvelin lui ordonna de se mettre à genoux et de se confesser sans détour. Et quelque chose d'extraordinaire s'est passé, c'est-à-dire les larmes de Charles de Foucauld se confessant lui restèrent une source intarissable de courage pour faire corps avec les délaissés croisés au Maroc. Avec les Touaregs à qui il consacra le meilleur de lui-même. Ce fut aussi chez nos frères et sœurs catholiques, pour Thérèse, au moment du retour de la messe de minuit, chez elle à Lisieux, à 11 ans, en entendant malgré lui son père pester contre l'obligation des cadeaux à faire aux enfants, elle prit conscience tout à coup que la petite voix, justement celle de l'enfant spirituel, serait son chemin de croissance en Dieu. C'est ce que me racontait un ami prêtre. Cette même nuit de Noël, lorsque Dieu distribua ses coups de foudre, comme on dit, Paul Claudel est bouleversé. Il est à Notre-Dame de Paris et il précise, près du second pilier à l'entrée du chœur, à droite, du côté de la sacristie, et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie, dit-il. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante que depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi. Claudel était rentré à Notre-Dame athée, il en est ressorti chrétien, sans bien savoir ce que cela voulait dire. Et il y a tant et tant d'exemples, tant et tant de vies, de récits, de témoignages. On peut en penser aussi de tous ces témoins de la foi qui ont traversé les vallées Cévenoles, notre région. Mais pour Claudel, dans tous ses écrits, il suit ce fil rouge, en fait, du bouleversement inattendu qu'il appelle la grâce. Une multitude de témoins pourraient vous raconter l'événement fondateur de leur aventure spirituelle. En 1521, les Français assiègent Pampelune, et il se trouve qu'un moine s'illustre parmi les défenseurs de la ville quand un boulet de canon lui broie la jambe et brise sa carrière. Il rentre au château familial sur un brancard, s'ennuyant ferme pendant sa convalescence, il dévore la vie des saints dans la bibliothèque de son château et en sort complètement transformé. C'est Ignace de Loyola qui ensuite aspire à servir la gloire de Dieu au service des hommes plutôt que sa propre gloire. Une gloire chevaleresque dans la noblesse de son temps. Interrogez ceux et celles qui se sont lancés dans une aventure spirituelle sans que l'on ne voit très bien de l'extérieur pourquoi ils s'y sont lancés. Et ils vous raconteront souvent, quelque part dans leur passé, un mont Tabor, une lumière qu'ils ont vue une fois. Et une fois suffit pour se mettre en route. Comme Abraham, pour partir avec la seule certitude de cette rencontre ineffable. Et chacun peut raconter sa propre histoire. J'ai parcouru dans ma formation professionnelle, où j'ai commencé très jeune à réussir un peu dans la vie, on dit réussir sa vie. Et puis tout d'un coup, j'ai été traversé par quelque chose d'assez étrange. Je ne pourrais le décrire. Et j'ai dit à cet ami avec qui nous avons fait nos études ensemble, nous étions embauchés dans la même entreprise, j'ai envie de m'orienter différemment, faire des études pour devenir pasteur. Et il me posait la question, mais ça rapporte ça? Alors commence vraiment le chemin de conversion lorsque on prend justement ces chemins de traverse, l'école buissonnière. Car c'est seulement en redescendant dans la plaine, à l'image de Pierre, Jacques et Jean, qu'on vérifie si c'était une illusion ou une vraie rencontre. La vie ordinaire du couple met ainsi à l'épreuve ses éblouissements initiaux. Ce qui n'était qu'illusion ou sentiment ne permettent pas de tenir la route. Ces mirages, en fait, s'évanouissent très vite devant la dure réalité de la vie commune. Nos transfiguration, ce sont des événements, souvent banals, plus rarement extraordinaires, mais toujours des événements relus dans la foi, relus sans cesse, 10 ans, 20 ans, 50 ans après, pour donner sens aux épreuves et aux obstacles qui nous envahissent, comme la brume reprend possession de l'océan après la traversée lumineuse du phare. Voyez-vous, la conversion n'est pas l'œuvre d'un instant, si beau, si fort soit-il. Elle a vivre toute notre vie durant. Et le carême est là pour nous le rappeler, car le véritable amour se vit dans la durée, non dans l'éblouissement d'un amour, mais l'éblouissement nous est donné pour durer. Et lorsque nous partageons, lors du culte, la Sainte Cène, nous demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux pour discerner les monts Tabor dont il a jalonné notre route. Sachons en rendre grâce, sachons aussi dans ce chemin de carême y trouver justement cette lumière et puissions-nous y revenir à cette lumière, souvent pour rester fidèles à ce Jésus, Christ, qui vient cheminer avec nous, souvent de manière anonyme, mais il suffit d'un regard, que nos regards se croisent, que nos mains se frôlent, pour que nous puissions sentir toute la force de la présence de Dieu dans notre quotidien. Amen. Écoute la voix de Dieu, c'était le cantique que nous venons d'entendre. Ce cantique qui nous invite aussi à partager notre foi. Et partager sa foi, c'est être en communion, où que nous soyons. Vous êtes peut-être dans votre cuisine, dans votre garage, dans le chemin, en écoutant ce culte. Et c'est cet esprit, cette foi qui nous porte et qui nous relie les uns aux autres. Je crois en Dieu qui met des lumières sur nos chemins, qui nous appelle par notre nom et ne cesse de nous conduire. Je crois en Jésus, le Christ, montagne de clarté, présence dans nos nuits, compagnon de nos descentes. Je crois en l'Esprit Saint qui ravive nos souvenirs de grâce et nous apprend la fidélité dans la durée. Je crois que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Je voudrais vous inviter, là où vous êtes, à un moment pendant ce temps de carême, de prendre un petit papier et puis vous noterez un moment de lumière sur ce petit papier, un monde de Tabor de votre vie pour lequel vous voulez rendre grâce. Et puis, vous pouvez le déposer au pied d'une croix, si vous avez une croix chez vous, ou près d'une bougie, tout simplement. Allumer cette bougie et mettre ce petit papier, cette note de lumière, et vous mettre à l'écoute d'une musique douce pendant ce geste. Et vous verrez que là encore, le souvenir vient rappeler que notre vie n'est pas faite que de passé, mais de présent et surtout d'avenir. Et dans cet avenir, nous déposons notre prière d'intercession. Seigneur, nous te confions ce qui marche dans la nuit, ce qui ne voit plus aucune lumière, ce que la maladie, le deuil ou l'échec accable, soit leur phare. Nous te prions pour les couples, les familles, pour les engagements professionnels, pour ceux qui prennent des décisions courageuses, dans leur mémoire et confiance. Nous te prions pour ton Église, qu'elle soit signe de ta lumière et non un refuge de peur. Nous te prions pour le monde, pour la paix, la justice, la fraternité. Amen.
Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Revenez à moi, je suis votre sauveur. Je vous accueille, je vous rends.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sur vous son visage, qu'il dépose sur votre route des lumières suffisantes pour avancer un pas après l'autre. Allez tous et toutes dans sa paix et souvenez-vous de vos monts d'abord. Amen.
Mon amour
et bon
fidèle, jamais le succombe. Dans le silence profond de ton esprit, je tends les mains pour guérir tes soucis. Chaque larme versée, chaque prière humble, je la recueille et je l'emporte aux cieux. Reçois le pardon qui renaît dans la joie et marche confiant, je suis toujours là. Dans le désert cruel de nos hésitations, je suis l'eau vive, la source de ton pardon. Laisse tomber les chairs qui lient ton cœur. Viens à ma lumière, oublie la douleur. Mes bras sont ouverts, mes mains sont tendues. Reviens vers moi, ton âme est bienvenue. Le chemin est dur, mais je le parcours avec toi. Ton pèlerinage se fait sous mon regard de roi. Alors marche en paix, peuple que j'ai choisi. Je t'accueille toujours
je t'aime à la folie. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Devenez à moi, je suis votre sauveur. Je vous accueille, je vous rends.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir de son site internet nimes-eglise-protestante-unie.fr ou bien en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, 3 rue Claude Prousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par le pasteur Redouane S. Manti. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme.